l'autorisation du Rav Nakash, du Rav Sharia. On peut commencer? Bon voilà. Imer Tachem, on va essayer d'étudier un sujet spécial, très important pour nous. Si j'arrive à le comprendre, j'ai réussi ma vie. Écoutez, on va démarrer comme ça. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, descends vite avec les tables de la loi. 40 jours et 40 nuits, ils étaient en train d'étudier ensemble. Parce que le peuple, vite, descend vite, parce que le peuple est en train de faire quelque chose de grave. Il descend, il voit qu'ils font le veau d'or. Il casse les tables de la loi. Je crois que c'est l'histoire la plus grave de l'humanité. Le peuple d'Israël a reçu la Torah. Hachem est venu et descendu donner la Torah devant le plus grand témoignage au monde. Plus de millions de personnes qui étaient là à ce moment-là. Ils sont arrivés à un niveau le plus grand, le plus haut. Et vont d'un seul coup, ils font le veau d'or et c'est l'hécatombe. Mais si Hachem, il ne veut pas qu'il fasse la votre faute. D'accord, ils se sont trompés de 6 heures. Beaucoup de Midrashim qui disent qu'ils ont cru que Moshe Rabbeinu était mort. Yetzer Hara, il était là très dur. Ils ont montré que, comme quoi Moshe Rabbeinu, ça y est, il a montré que Moshe est mort. Donc s'il est mort, il nous faut un nouveau guide. Mais si c'est ça, toi Hachem, tu vois qu'ils vont faire la faute. Fais-les descendre tout de suite, fais descendre Moshe Rabbeinu tout de suite. Et comme ça, ils ne font pas de faute. Pourquoi tu attends qu'il fasse sa faute, après tu dis à Moshe, descends. Question très importante pour nous. C'est vital. Hachem, il a créé un peuple. Il a construit un peuple. La meilleure façon de le construire, c'est qu'il passe par une épreuve. Et si à ce moment-là, il arrive à se consolider, à ne pas fauter, alors il va devenir vraiment un peuple. Regardez, on va trouver quelques exemples et vous allez voir que c'est important pour l'homme, pour chacun de nous. Hachem, il crée Adam Arishon, le premier homme. Il dit, voilà, je t'ai créé, voilà tous les arbres, tu es au paradis, tout est permis à manger, tu peux faire tout ce que tu veux, sauf un arbre. Mais si tu ne veux pas qu'il mange, ne le crée pas cet arbre. Pourquoi tu crées cet arbre et tu dis, c'est interdit? Pourquoi interdire? Et là, la réponse est la même. Parce qu'Hachem, il a voulu mettre un arbre interdit et que l'homme, il arrive devant ce penchant, ce mauvais penchant, et il se surmonte. Et il ne mange pas du fruit. Parce que le but de l'homme, comme ça dit le Messie à Tisharim, le but de l'homme, c'est que l'homme soit, qu'il profite de la lumière de Dieu. C'est pour le bien de l'homme, pour le bonheur de l'homme. Mais son bonheur, il est dans le monde futur. Et comment j'arrive au monde futur? Dans ce monde-là, par l'épreuve. Quand j'arrive à me surmonter, quand j'arrive à réparer mes défauts, mon défaut. Pourquoi je suis venu dans ce monde-là? Il y en a un, il est venu parce que... Une fois, j'ai vu quelqu'un comme ça en train de rigoler. J'ai dit, qu'est-ce que vous rigolez? Il me dit, regarde, celui-là, c'est un radin. Mais alors, c'est un radin. J'ai dit, mais c'est quoi rigoler? C'est facile de rigoler sur l'épreuve de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il faut voir notre épreuve à nous. Chacun, il a une épreuve différente. Un, il est jaloux. L'autre, il est menteur. L'autre, il n'arrive pas à se lever le matin. L'autre, il est radin. Mais de gagner les aides. Ah bon, regarde celui-là. C'est facile de jouer avec les autres. Mais toi, il faut que tu joues ta vie. Tu joues ton épreuve. Tu dois réussir ton épreuve. C'est pour ça que tu es venu dans ce monde-là. Parce que l'épreuve, elle construit l'homme. L'épreuve, elle consolide l'homme. En hébreu, l'épreuve, on dit nisayon. Nisayon, rappelez-vous bien, c'est un mot qui est très fort. C'est la clé de la vie. J'avais, une fois, il y a 40 ans de ça, j'avais vu une famille comme ça, deux belles sœurs avec une belle-mère, en train de se disputer. Et la belle-sœur, elle dit, oui, ma belle-mère m'a fait ça, moi je donnerai comme ça, et puis elle ne verra pas ses petits-enfants. Et tout en train de se venger. Et il y en a une belle-sœur toute gentille. Alors là, on va dire X, cette belle-sœur qui veut pas se faire, elle dit à Sarah, mais pourquoi toi tu te pigeonnes, tout ce que te demande ta belle-mère, tu fais. Mais regarde ce que t'as fait hier, à ce que t'as fait hier, et avant-hier. Non, non, je ne veux pas faire du mal. Je ne veux pas faire du mal. Je sais pas, moi, peut-être elle est tombée quand elle était jeune sur la tête. Cette belle-mère-là, j'en sais rien. Peut-être qu'en Algérie, elle a eu peur d'un attentat. Alors vas-y, laisse passer toi aussi. Non, moi je laisse pas passer. Elle me fait comme ça, je fais comme ça. Et le temps il passe. 20 ans il passe. Et voilà que 20 ans après, cette fille, cette belle-fille-là, X, qui était dure, elle marie son fils. Tout le mariage super bien et tout. Et puis d'un seul coup, la belle-fille, elle lui envoie un pic. C'est quoi? Elle va presque lui sauter sur elle et la manger. Et puis elle commence à crier, et après c'est tué. Attends, 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 je comprends pas là, attends. Mais si je réagis comme ça, je vais perdre mon fils. Alors elle a baissé la tête. Ce qu'elle n'a pas voulu faire 20 ans avant, 20 ans après, Hachem, il l'a remis dans la même épreuve. Différemment, mais dans la même épreuve. Tu n'as pas voulu baisser la tête avant, tu vas la baisser maintenant. Vous savez, il y a des jeux comme ça, dans les Game Boy. Il y a des jeux comme ça que, tant que tu n'arrives pas à passer cette épreuve-là, tu ne peux pas passer à l'épreuve de suite, d'après. Chaque fois que tu rates, tu reviens au début. Tu reviens à cette épreuve du début. C'est comme ça, la vie. La vie, chacun de nous, il a un Nissayon, un vrai. La vie, c'est un grand jeu. Le problème, c'est qu'on aime jouer au football, on aime jouer au tennis, on aime jouer. Une fois, je suis parti en vacances, on tient à l'hôtel, j'ai tranquille. Tout dit, alors où c'est qu'on court, où c'est que j'ai pas, on est venu se reposer. Non, mais il faut qu'on aille jouer, on va aller à une partie. Partie de quoi? Pour qui c'est qui va gagner? Mais pourquoi faire? On est tranquille. Un être humain ne peut pas rester tranquille. Il est obligé de jouer. Mais l'erreur de notre erreur à nous, c'est quoi? C'est qu'on joue la vie des autres. On joue la vie qui n'est pas notre jeu à nous. Il faut qu'on joue notre jeu. Qu'on réussisse notre épreuve. Alors, tu as des gens comme ça, une fois j'étais comme ça à Marseille, et puis j'arrive comme ça, je dis, ce que vous avez fait, puis on a vu le film de Rambo, ouais, comment il a couru sur une montagne, sur une autre, il est tiré à droite, à gauche, ouais. J'ai excusez-moi, mais là maintenant j'ai besoin de vous, là, j'ai un pneu qui a crevé. Ah non, on est fatigué maintenant. Ah non, je peux plus là. Alors ils aiment jouer les héros dans les films. Ils aiment les super-héros. Mais quand tu es dans la vie, tu as besoin de toi. J'ai besoin de toi, viens. Sois un fois quelqu'un de fort, sois le dixième en mignonne. Viens étudier. Non, non, je peux pas. Mais t'as joué le beau rôle pendant 2 heures de temps, dans l'imagination. Mais nous, on ne veut pas que tu sois un héros dans l'imagination. On veut que tu sois un héros sur le terrain, dans ta vie, dans ton épreuve. Si on arrive à comprendre ça. Et chacun, le Harizal, il dit, chacun il connaît son épreuve. Tu sais que tu n'arrives pas à faire ça. On te demande, tu n'y arrives pas. Et chaque fois que tu tombes, tu n'y arrives pas. Mais c'est là ton épreuve. C'est pour ça que tu es venu dans ce monde-là. Et si tu as une mitzvah où tu cours derrière cette mitzvah, c'est aussi pour ça que tu es venu. Pour réparer cette mitzvah, pour arranger cette mitzvah. Donc c'est dommage que tu rates. Tu as passé 70 ans de ta vie d'être ingénieur, c'est Panzani, d'accord? Et tu as raté ta vie. Ouais, c'est pas pour ça que je suis venu, mince. Je suis venu pour étudier la Torah. Je suis pas venu pour gagner, pour faire ça. Pour manger cachère. Vous savez, il y a quelques années de ça, j'ai reçu un jeune Shabbat chez nous. Un jeune du Rav Ronchaya, qui a fait tchouva chez Rav Ronchaya. Ah, j'ai raconté, alors j'aime bien, raconte-moi ta vie, raconte-moi. Comment tu as fait tchouva? Il me dit sincèrement, une fois sans faire exprès, je suis tombé sur le portable, et sans faire exprès, je suis tombé sur une vidéo du Rav Ronchaya. Il a parlé de la cache-route. Moi, la cache-route, j'habite à 5 km de Toulouse. Il n'y a rien de cachère. Il n'y a rien de cachère. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Non, c'est pas pour moi. Et puis d'un coup, ça me revient. Non, non, c'est pas pour moi. Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas la cache-route. Laisse-moi tranquille. Et voilà que le lendemain, il n'a pas eu le temps de manger. Il est parti vite au travail. Petit déjeuner, il n'a pas le temps. Il a travaillé. Il sort à 1 heure. Il a juste une demi-heure de libre dans son boulot. Alors vite, il rentre au McDonald's. Il rentre au McDonald's, il veut commander un sandwich. Ah, vite, j'ai faim, j'ai faim. Et d'un seul coup, il lui amène le congé, mais vite, je dois vite partir, manger, partir. Il ouvre le paquet, et qu'est-ce qu'il voit? Son hamburger qu'il attendait avec impatience, il est brûlé. Il n'a même pas le temps de se plaindre. Vite, il se sauve pour aller travailler. D'accord? Et là, alors, le soir, alors là, il a une faim énorme. Il dit, écoute, laisse tomber, je rentre chez moi. Je rentre chez moi, il s'est fait un steak au jambon, tranquille, tout content, comme ça. Et puis, d'un seul coup, il entend la radio, une catastrophe, il y a eu ça, un tremblement de terre, il est. Et puis, d'un seul coup, il va chercher son steak. Ouais, il a brûlé. Mais c'est quoi, ça? Il était tellement fatigué qu'il s'est endormi sans manger. Et le lendemain, rebelote, il retourne au McDonald's, et d'un seul coup, il voit son hamburger brûlé. Mais c'est, qu'est-ce qui se passe, là? Et puis, d'un seul coup, il entend la voix du Ram Chaya, cache-route, why? C'est un signe de Dieu, là, c'est quoi, ça? Bon, ça va, j'ai mangé des cornichons, ça va, des concombres, une tomate. Il m'a dit, voilà, c'est comme ça que j'étais marré. Après, il fallait que je fasse 100 km pour aller acheter de la viande et revenir. J'ai commencé à manger cachère. Et d'un seul coup, mon âme, elle avait soif de Torah. C'est quoi, j'écoute, il faut que je le voie en vrai, ce Rav Ranjaya là. Hein, j'ai téléphoné, je suis venu. Je t'appare chez mon latte. S'il avait continué de dire, c'est quoi, je m'en fiche de ça, allez, donne-moi un cochon, donne-moi un burger. Il aurait raté sa vie. Bechazde Hachem, des fois Hachem nous tend la perche. Viens, je t'attends, regarde. Dans ce coup, tu entends un mot, aux informations à droite, quelqu'un te dit, mais qu'est-ce que tu manges aujourd'hui? Pourquoi tu me poses la question, qu'est-ce que je mange? Quoi, tu travailles dans la police? Qu'est-ce que tu me demandes? Qu'est-ce que tu veux? C'est Hachem qui te pose la question, c'est Hachem qui t'appelle. Vous comprenez pourquoi Hachem, il n'a pas voulu demander à Moshe Rabbeinu de descendre, de les arrêter, qu'ils ne fassent pas le veau d'or? Parce qu'ils sont venus après être au moment, au niveau le plus haut du peuple d'Israël, ils sont venus pourquoi? Qu'est-ce qui a marqué dans l'étape de loi? Je suis l'état de ton Dieu. Maintenant, sur ça, ils vont travailler de quoi? Est-ce que je crois en Dieu ou est-ce que je crois au veau d'or? L'épreuve, elle est venue sur ça. Elle était tellement forte. Des fois, on arrive devant une situation, on ne peut pas faire autrement. Je voudrais arrêter, mais je ne peux pas. Mais c'est ta vie que tu joues là. Ce n'est pas une partie de ping-pong. Tu joues ta vie. Le Messie a été charim, premier paragraphe. Écoutez ce qu'il dit. Nimsed, on apprend de là que la raison d'être de l'homme dans ce monde-là, c'est pour les kayem, pour faire les mitzvot, et de tenir devant l'épreuve la amod benissayon. C'est ça le but de l'homme. Et regardez, on va voir. Qu'est-ce que c'était là, la deuxième faute de l'humanité? Caïn, il a tué Evel. Ils ont un monde entier, d'accord, des millions de kilomètres entre eux. Partage, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne suffit pas à la moitié. Il faut que Caïn, il vole là et il tue Evel. Qu'est-ce qui arrive? D'un seul coup, qu'est-ce qu'il y a? Yitzhak et Ishmaël. Après, Yitzhak, il a deux enfants, d'accord, Esav et Yaakov. Il se bat sur le droit d'aînesse. Ils se battent les deux droits d'aînesse. Mais Hachem, pourquoi tu fais ça? Si tu veux que ce soit le premier, ça va, alors mets le premier, ça va. Et Yaakov, le deuxième. Ou Yaakov, le premier, et Esav, le deuxième. Pourquoi tu les mets à main? Pas, il faut qu'ils naissent à la même seconde, en même temps, qu'on ne sait plus qui c'est qui est le premier. Pourquoi ça? C'est parce que, étant donné que la faute de Caïn et Evel était entre des frères, il fallait maintenant se surmonter en tant que frère. Savoir s'accepter. Ils n'ont pas tenu. Et Esav, il n'a pas tenu. Ah, tu n'as pas tenu? Donc alors maintenant, c'est Yaakov et ses frères. Maintenant, il y a la guerre entre les frères de Yaakov et les frères de Yosef avec Yosef. Pourquoi tout ça? Ah, ça n'a pas marché. Voilà que les frères, ils ont voulu tuer Yosef. Voilà que les frères, ils ont vendu Yosef. Alors on revient. Qu'est-ce qu'on revient? Maintenant, Yosef, il a deux enfants, Ephraïm et Menaché. À Yaakov, il dit papa, béni Yaakov, béni Ephraim Ménaché. Qu'est-ce qu'il fait, Ephraim Yaakov? Il va bénir le petit plus que le grand. Ouais. Mais papa, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas possible, tu te trompes, non? Je sais, mon fils, mais il n'y a pas le choix. C'est leurs épreuves. Il faut qu'ils réussissent, un à accepter l'autre, un à aimer l'autre. Tu comprends? Je sais qui c'est le grand, mais c'est le petit qui va être plus grand que le grand. Et pourquoi comme ça? C'est comme ça, c'est comme ça. Des fois, tu arrives au travail, tu as travaillé pendant 10 ans, tu t'es surmonté, tu t'es sacrifié au travail. Et puis d'un seul coup, il y a un nouveau qui arrive là, ça fait quelques mois, et le patron dit « Ouais, ouais, je vois que tu avances bien toi, hein, alors on va te mettre chef sur tout le monde. » Quoi? Sur moi? Il vient à peine d'arriver, sur juste sur moi qu'il va te mettre? Alors je commence à m'énerver, à le haïr, à tout faire. Pourquoi tout ça? Quoi? Il y a des millions d'entreprises en France, et juste sur cette entreprise, ils ont fait venir celui-là. Alors que je me suis investi pendant des années. C'est comme ça la vie. Il faut que tu apprennes à surmonter ton épreuve. Et regardez comme c'est merveilleux. Oh, Dieu, il dit à Moshé Rabbeinu, allez, maintenant, tu vas diriger le peuple d'Israël. Moshé dit, non, je ne veux pas. Quoi? Mon frère, c'était lui, pendant des années, il a dirigé le peuple d'Israël, et moi, le petit frère, je vais arriver, commencer à diriger? Non, pas question. Ah, Shemitia, c'est pour ça que tu ne veux pas être le chef. Eh bien, sache une chose, que j'ai dit à Aaron, et qu'est-ce qu'il y a marqué? Vaïsmar Bilibo, il était content dans son cœur. Pas simplement, il était pas jaloux contre toi, hein? Pas simplement, il était mis par Chas v'Shalom, pas du tout. Il était content de savoir que c'est le petit qui va remplacer le grand Aaron. Et Hachem dit quoi, Aaron? Tu t'es surmonté? Tu as gagné ton épreuve? C'est quoi, tu as gagné ton épreuve? Eh bien, c'est toi qui vas bénir le peuple d'Israël. Tu as gagné ton épreuve? C'est toi qui vas avoir les Ourim et Thummim. Il y avait un écran avec toutes les pierres, je vous dis en facile, hein, d'accord? Toutes les pierres, chacun qui avait une question, on allait demander au Ourim et Thummim. On allait demander au Kohen Gadol. Qu'est-ce que je fais? Je pars en guerre, je pars pas en guerre, qu'est-ce que je fais? Mais d'où avait cette force à Aaron à Kohen? C'est parce que quelqu'un qui n'est pas jaloux, quelqu'un qui réussit son épreuve, que maintenant c'est le pendant, regardez, pendant au moins 40 ans, Aaron, c'est lui qui a gouverné le peuple d'Israël en Égypte. Dans la souffrance et tout ça. Et maintenant que la délivrance démarre, il va commencer à récolter au moins tous ses efforts. Qu'est-ce qu'on lui dit? Stop, reste sur la touche 3. Maintenant, c'est Moshé qui démarre. Quoi, le petit Moshé, là, qui était dans le Nil, dans un berceau, là, lui, il m'a commandé, là. Et regardez, toute la Torah est marquée. Et Dieu, il dit à Moshé, et Moshé, il dit à Aaron, et Moshé, il dit à Aaron. Mais cette épreuve, elle est passée comme ça pendant 40 ans. Moshé, il dit à Aaron. Et Aaron, il bouge pas. Ça le dérange pas. Au contraire, il est content. Il a gagné. Il a gagné son épreuve avec son frère. Aïe, 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 comme c'est extraordinaire, ça. Si on n'a pas d'épreuve, on n'a pas de vie. Il n'y a pas de coup à la vie. Une fois, j'étais dans un hôtel à la grande cité, en face de la grande cité. L'hôtel à la place s'appelait l'hôtel Hayat, Gilad Kacher. Mes parents, ils m'ont dit, papa, allez, mon fils, allez, je veux que tu t'invites Shabbat à l'hôtel. Je veux t'inviter Shabbat. Je n'ai pas le choix, Kiboudavaev, je suis parti. D'accord? Et là-bas, je vois deux personnes que j'ai connues il y a 20 ans d'avant. Et je vois maintenant, ils sont à la retraite. Ils ont 70 ans, ils sont à l'hôtel. Alors, autant je voyais des gens heureux qui arrivent à l'hôtel, et autant ils étaient tristes. Pourquoi? C'était, il n'y a pas d'épreuve, il n'y a rien. Tiens, ils sont à la retraite, c'est terminé. Chaque jour, ils se ressemblent. Automatiquement. L'épreuve, c'est ça qui donne la vie. C'est ça qui donne le goût. C'est ça qui me renforce, qui me fait grandir. Regardez bien. C'était... Et on peut trouver comme ça plein d'exemples. J'étais une fois, j'avais, il y a 20 ans de ça, à Rosh Hashanah. On m'a téléphoné, on me dit, Ravatali, est-ce que j'ai mon fils, il a 40 ans, mais il n'a pas où passer, Rosh Hashanah. Il va venir, il va prendre l'avion, vous pouvez le recevoir. J'ai dit, d'accord. Maintenant, il arrive chez moi. Je vois un type, presque je ne le voyais pas tellement il était maigre. qu'est-ce que je m'aperçois? C'est un drogué. Il m'a envoyé un drogué chez moi. Mais qu'est-ce que je vais faire avec un drogué? Il va savoir que toutes les fautes, tous les trucs qu'il fait le type, je sais pas moi. Mais il sait même pas lire. Et alors là, j'étais pas bien, pourquoi? J'ai dit à ma femme, regarde, cette année Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est jeudi, vendredi, samedi. 3 jours de Torah, on se lève au net, c'est à 4h du matin, et je fais attention parce que c'est le jour qu'il va décider. J'ai dit, mais le type, 3 jours, il va rester avec moi, il va risque de mourir de overdose de Torah. Il va faire une overdose. J'ai dit, bon, c'est quoi? J'ai dit, bon, écoute, on verra bien, allez, on verra bien. Donc alors, il s'assoit le premier soir de Rosh Hashanah, tout content, il s'assoit, hop, il mange. Alors, on a vu, il a vu une famille, le pauvre. Il n'y avait plus de famille. Marié, divorcé, des enfants à droite, à gauche. Le pauvre, il était perdu. De ce coup, il retrouve une famille. Tout content, ouais. Et il est heureux. Alors maintenant, je l'ai fait dormir juste au-dessus de la yeshiva. À côté de l'Ezrat Nashim, là-bas. Donc, je l'ai fait dormir là-bas. Il me dit, à quelle heure c'est la prière? J'ai eu honte de me dire que la prière, c'était à 4h du matin. Je lui dis, va quoi, il va craquer, le type. Je lui dis, viens à 9h la prière, 9h, t'inquiète pas, c'est 9h. Il arrive comme ça, à 8h du matin, il me dit, qu'est-ce qui se passe? J'écoute, je sais pas ce qui se passe, mais j'entendais des voix et des prières. Je lui dis, mais c'était la prière qu'on faisait en bas, t'inquiète pas, c'est pas des anges, n'aie pas peur. Tout content, 2 jours, merveilleux, heureux. Vendredi après-midi, il me dit, Rav, je vois que vous êtes un Rav sympathique. D'accord, alors c'est quoi le problème? Il me dit, vous avez vu, je fume 2 paquets par jour. 2 paquets, 3 paquets même des fois. Et vous savez quoi? J'étais tellement heureux, j'ai pas touché à la drogue. Ça fait 2 jours. Et je vais vous dire une chose, une vérité, Rav. En vérité, le psychiatre, mon psychiatre, il a dit à mes parents que j'allais mourir d'overdose. Tellement je me piquais. Donc ils ont dit, s'il risque de mourir, alors vaut mieux qu'il meure à Jérusalem. Alors on va l'envoyer chez Rav Attali. J'ai dit ouais, c'est gentil. J'ai dit ah, c'est gentil. Tout à l'heure. J'ai dit bon, ça va, ok. Alors, mais grâce à Dieu, regardez. Maintenant, j'ai même pris du poids un petit peu, j'ai mangé, bien mangé chez vous là. Hein, les pâtes, les dates et tout ça. Ouais, c'était merveilleux tout ça. Et là, qui est là aussi, ouais. J'ai dit bon, d'accord, maintenant qu'est-ce que tu veux? Il me dit 3 paquets par jour, sans drogue. Shabbat, il arrive. Comment je vais faire? Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, un rabbin m'a pris de côté, il m'a dit, écoute, ce qu'il fait dans sa chambre, c'est pas ton problème. Laisse-le. Au moins, il est là, c'est très bien. Alors, je me tourne comme ça vers lui, il commence à me sourire. Je vous dis, ça, vous êtes un rêve sympathique. Alors, j'écoute-moi bien. Chez moi, on fume pas. Quoi? Mais, sympathique? On fume pas? C'est pas possible, impossible. Il m'a dit, mais si je fume pas, je vais mourir. Je dis, ben c'est très bien, il n'y a qu'à mourir. Je mettrai sur ta tombe dimanche, il est mort, sans fumer Shabbat. Voilà. Voilà, un héros, il est mort sans fumer Shabbat. Il s'est éclaté de rire. Il m'a dit, bon, ça va. J'ai dit, tu vas y arriver. Je l'ai coaché. Je lui ai dit, tu vas y arriver. Donc à ce moment-là, il m'a dit, d'accord. Vendredi soir, il a mangé le couscous, on a chanté, qui est Shmirat Shabbat, tout ça, tout content. À la fin du repas, il me dit, Rav, j'ai un appel, hein, j'ai un appel très grave. J'ai alors, il me dit, mon psychiatre, il m'a donné du sirop. Il m'a dit, tu prends 10 gouttes, mais 10 gouttes, et là, ça va t'endormir pendant 8 heures, ça va te calmer. Si tu as une crise, tu prends ça. Je lui ai dit, c'est super. Je lui ai dit, prends 30 gouttes comme ça, tu dors. Je casse à l'histoire, tu dors. Ah, merci Rav. Allez, vite, va prendre tes gouttes et va dormir, allez. Il revient un quart d'heure après et me dit, Rav, je suis tellement heureux. Je m'en fiche des gouttes, je prends pas des gouttes. Allez, venez, on chante encore et on peut étudier. J'ai dit, d'accord, allez, on étudie. Allez, étudie et il s'endort, tout content. Le lendemain, pareil, à midi, tout heureux, il a fait la prière. On a fait monter au Sefer Torah, il s'est mis à pleurer. Et voilà que, samedi midi, à 2h, il me dit, oh, ça y est, j'ai l'attaque. Je dis, vite, va prendre tes gouttes, vite. Il revient un quart d'heure après, je prends pas mes gouttes, je vais étudier avec toi. Samedi soir, il commence à regarder le ciel comme ça. Je dis, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il me dit, ouais, il y en a plein d'étoiles. Je dis, ah, tu veux fumer? Vas-y, tu mérites de fumer, vas-y. Fume 1, 2, 3 cigarettes. Vous savez quoi? Cet homme-là, il a arrêté la drogue et la cigarette. La plupart des gens qui sont drogués, qu'est-ce qu'ils disent ? C'est pas bon, demain j'arrête. Demain j'arrête, demain j'arrête. Mais c'est ça ton épreuve. Il faut que tu arrives à te contrôler. Il faut que tu arrêtes à surmonter ton épreuve. Et quand tu vas surmonter, tu vas être l'homme le plus heureux de la vie. Et pour cela, il te faut une raison de vivre. Si tu n'as pas de raison de vivre, tu es foutu. Si tu n'as pas de Torah, c'est normal que tu te drogues. C'est tout à fait normal. Quelle raison tu as de vivre? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mangé des carottes hier, tu as mangé des carottes aujourd'hui, quand je l'avais, clavier dans mon tome. Alors je lui dis, sans Torah, Torah rien. C'est tout. Donc si tu n'as pas de raison de vivre, c'est normal que tu es drogué. Dès qu'il a commencé à étudier la Torah, aïe, 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 ça y est. Et il a eu sa vraie drogue. Nachon, Marx, il a raison. C'était un juif. Il a dit, la religion, c'est un peu l'opium du peuple. Non, la Torah, c'est l'opium du peuple. La Torah, c'est notre opium à nous. C'est ça qui nous donne le sourire, la joie. De courir, de marcher. Sans Torah, Torah rien. Quelle chance vous avez d'étudier là, ici, à Jérusalem, dans les Shiva du Yeshua, tu sais, du Rav Wanchaya. Mais le matin, quand vous levez, vous devrez danser. Combien de fois j'étais en France la semaine dernière, je voyais des jeunes de votre âge, les pauvres, ils étaient éteints. Éteints. Ils parlent d'Israël comme si c'était le monde futur, c'est quoi? Vous avez cette chance, vous êtes arrivé jusqu'ici. C'est à part chez mon lad. Mais vous devez danser le matin. Mais maître, il faut ici, il commence ta prière, même le Rav Rucha, il va s'étonner, il va dire qu'est-ce qu'il faut être dans ici. C'est pas des bracelets ici. Mais le ressentir, la chance qu'on a. Si on a encore du temps, jusqu'à quelle heure on a? Ça y est? 10 minutes, alors écoutez bien. Si on a que 10 minutes. Aïe, 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 aïe. Regardez, on doit réussir l'examen de notre vie. Je vais vous raconter des histoires pour que ça nous rentre dans la tête. D'accord? Et notre épreuve à nous, vous savez c'est quoi notre épreuve à nous? Notre épreuve, c'est la Torah. C'est ça notre raison de vivre. Si on arrive à se lever... Alors ce qui est drôle, c'est quoi? Les gens, ils étudient la Torah, ils s'assoient, ils s'endorment. Je suis fatigué. Je me sens mal. Je crois que j'ai la fièvre. De ce coup, il entend un coup de téléphone. Il y a un match de foot à côté. Oh, mais il a toutes les forces de ça, t'es resté là, il joue, au foot. Mais tu allais mourir à 2 secondes. Tu comprends pas que c'est toi, c'est rien qui essaie de te faire tomber là. Lève-toi le matin. Non, non, c'est impossible. Alors là, je suis mort. Je suis mort dans le lit. D'accord. Non, mais t'as pas compris. C'est ton avion aujourd'hui à 8h du matin. Ah, je suis là comme un fou. Mais t'as dit que t'étais mort. Mais je me suis trompé de jour, j'ai oublié que c'était aujourd'hui, je devais voyager. Quand tu comprends le jeu de ta vie. Alors des fois on est malade, oui. Mais 90% c'est pas de la maladie. J'ai un sadique qui m'a dit une chose extraordinaire. Il m'a dit avant les avions à hélice, vous savez, les avions à hélice comme ça, qui tournent. Hein. Il m'a dit comment ils peuvent s'envoler? Ils s'envolent parce qu'il y a de l'air, il y a le vent. S'il n'y avait pas d'air, ils ne peuvent pas s'envoler. C'est-à-dire quand il y a le contre. C'est grâce au contre que l'avion arrive à décoller. C'est grâce au Yetzirara qui vient à nous pour une épreuve, pour dire non, moi je veux avancer. Je ne veux pas reculer. Et c'est comme ça que je grandis. Un jour, il y a une famille comme ça, ils ont dit à son fils, moi tu as l'examen, tu as le bac. Viens, on va recevoir une bracha du rabbi. Donc ils sont partis à New York voir le rabbi. Le rabbi dit à l'arabe, on voudrait que tu me fasses une bracha pour réussir pour le bac. Alors le rabbi lui dit, tu as étudié? Il dit, oui, j'ai étudié. Bon, je te bénis, allez. Mais je te demande une chose, quoi? Alors il y avait les parents, ils étaient derrière la porte en train d'écouter, de voir qu'est-ce qu'il va dire. Qu'est-ce qu'il va dire le rabbi? Il lui dit, écoute, après, quand tu réussis ton bac, tu reviens me voir. Waouh, tout le monde était content. Et voilà qu'il réussit son bac. Et alors les parents, ils ont dit, le rabbi, il a dit, tu vas le voir. Donc alors ils vont le voir, et encore les parents ils sont derrière la porte, ils attendent qu'est-ce qu'il va dire le rabbi à son fils. Qu'est-ce qu'il va lui dire? J'ai dit, Rabbi, j'ai réussi le bac grâce à Dieu. Aïe, 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 j'ai réussi mon examen. J'ai réussi le bac. Il dit, mon fils, maintenant je te bénis. Alors tout le monde était là en train d'entendre. Je te bénis que tu réussisses l'examen de ta vie. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, quel bracha. Oui, on doit réussir l'examen de notre vie. Oui. C'est facile de gagner les examens des autres. D'accord? Le yetzerara des autres. C'est facile. C'est facile de jouer, être le premier au football, au tennis, à droite, à gauche. Ah oui, meilleur chef, meilleur cuisinier du monde. Merveilleux, ouais. Jeux olympiques, merveilleux, ouais. Et toi, ton jeu à toi. Quand est-ce que tu vas être un raté? Si Hachem t'a mis dans ce monde-là, c'est parce que tu peux réussir. Tu peux être un bon juif, tu peux être un ben Torah, un homme de Torah. Il y a 20 ans de ça, j'ai un ami, il n'avait pas d'enfant. Quand il s'est marié, 1 an, 2 ans, 10 ans, pas d'enfant. Il a dit à sa femme, viens, on adopte. Elle est d'accord. Ça a mis 7 ans pour adopter. À 17 ans, il habitait dans la vieille ville. Après 17 ans de mariage, on lui annonce, voilà, madame et monsieur, on vous donne 2 enfants. 2 enfants pour vous. L'assistance sociale dit, mais une condition. Vous n'avez pas le droit de chercher les parents biologiques. Vous donnez de l'amour à ces enfants, vous les faites grandir, et c'est tout. Sinon, on vous reprend. Donc voilà l'assistance toutes les semaines. Elle vient, elle vérifie, tout se passe bien, merveilleux. Et voilà que ça arrive Tisha B'Av. Tisha B'Av est tellement heureux. Ça fait 2-3 mois qu'il a ces enfants-là, c'est l'homme le plus heureux, la femme la plus heureuse. Baruch HaShem, un enfant de 2 ans et un autre de 3 ans. Ouais, qu'est-ce que c'est beau. Alors il dit à sa femme, tu dis, écoute, il faut participer à la souffrance du peuple d'Israël. Je suis tellement joyeux que j'ai oublié la destruction du temple. Et combien de gens qui sont malades, de juifs dans les hôpitaux, et combien de soldats ils meurent, les pauvres. Alors regarde, je vais aller aux côtés de la Tisha B'Av. D'accord, je vais aller. Vas-y mon mari, vas-y, oui, tu as raison, vas-y. Donc alors il va aux côtés. Et d'un seul coup, il voit des pauvres comme ça, il dit, Tedeka, Tedeka, Tedeka. Alors. Lui a un copain, ils sont deux, allez, on rentre. T'es d'accord. Alors il prend un shekel, il lui donne. Il dit, ah merci, toi, oh c'est gentil. Fais-moi une prière. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant le pauvre du monde, fais-moi une prière. C'est quelle prière je te fais là? Non, je t'en supplie, je fais une prière, mais moi j'ai pas de barbe, je suis pas un rabbin moi. Je t'en supplie, tu fais une prière, je veux que ça soit toi que tu fais une prière. Son copain dit, bon ça, fais une prière, on va arrêter la prière, on vient le mener au côté. Fais-lui la prière. Elle dit, bon d'accord, je te fais une prière sur quoi? Alors il dit, écoute-moi bien. Il amène dans sa poche, il sort son portefeuille. Je voudrais que tu pries pour que je retrouve mes 2 enfants. Et il ouvre le portefeuille, tu vois, c'est ceux-là, les 2 enfants. Ils s'appellent comme ça et comme ça. L'autre type, il va tomber dans les pommes. C'est les 2 enfants qu'on lui a donnés. Mais c'est quoi ça? Répondons sur l'homme. Hachem il bat, c'est quoi? Alors il dit, mais celui-là, il s'appelle Daniel, et elle s'appelle ça? Oui, mais c'est lié à mon ami. Je te dis, celui-là, c'est lui à l'ami, c'est lui à l'ami. Ah, il ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se dit, je dis pas. Mais enfin, Hachem, il a donné à ses enfants à lui, pas à moi. Et juste sur moi, il est tombé. C'est quoi hein? Mais si je donne maintenant? Son copain, il dit, mais tais-toi, ne dis rien, surtout ne dis rien. Il lui dit, écoute bien. Mon cher monsieur, j'habite à telle adresse. Tes enfants, ils sont chez moi. Tu peux venir les voir quand tu veux. Et là, son copain dit, mais tu es fou, mais qu'est-ce que tu as fait? Ils vont te les enlever, les enfants. J'ai dit, alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il rentre à la maison en pleurant. Et il raconte à sa femme, j'avais pas le choix. Juste à moi, c'est tombé. Je pouvais pas lui donner l'adresse. Sa femme, elle pleure. Elle dit, bon, tu as raison, tu as bien fait. Écoutez bien. Et voilà que le papa, il va voir les enfants. Elle a accepté, elle tombe enceinte. Après 17 ans de mariage, elle tombe enceinte. Je t'abarche, c'est malade. Elle a surmonté son épreuve. Elle aurait pu dire non, je garde, je dis rien, non. elle est tombée enceinte. Je ne veux pas dire le nom. D'accord? Aïe, 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 aïe. Combien de fois on passe à côté de notre épreuve? D'accord? Si maintenant on est là, on n'est pas là pour faire cuire des artichauts. On est là pour étudier la Torah. Si déjà vous êtes là, vous avez la chance d'être avec des rabbanim, mais de super haut niveau. Vous avez la chance de poser toutes les questions que vous voulez. Comment je vais pour casser moi, etc. Comment je fais ça? Ils ont du passé, ils ont de l'intelligence, ils ont de la sagesse, ils ont de la Torah. Vous comprenez? La chance que vous avez? La chance qu'on a? Et je termine, alors juste pour vous prouver, voilà, je termine. Regardez bien. Il y a tous. Certains, ils ont les yeux verts. Moi, j'ai pas vert. Bleu non plus. Marron. Mais l'iris, elle est tous noire. Pourquoi? L'iris, elle est noire. Ceux qui ont les yeux bleus, ils ont même l'iris noire. Tout le monde a pareil. C'est pourquoi? Écoutez bien. C'est que pour voir la lumière, il faut passer par le noir. Pour voir la lumière, il faut passer par l'épreuve. À ce moment-là, tu comprends les choses. Vous comprenez pourquoi on a l'iris qui est noir? Le mot Nisayon, dans le mot Nisayon, le mot Nes, c'est miracle. C'est quoi le miracle? C'est qu'en vérité, le type, il a raison, il ne peut pas gagner. Son épreuve ne peut pas la gagner. Dans ce coin, on lui dit, mange kasher, je ne peux pas manger kasher, mais c'est pas difficile, ferme ta bouche. Oui, pour toi, c'est facile, pour lui, c'est impossible. C'est impossible. Il suffit juste de faire le premier pas, et Hachem, il te fait le miracle. Tu as raison, c'est impossible que tu puisses gagner. Impossible que tu fasses Shabbat. C'est pas grave. Commence à préparer tes bougies. Commence à préparer de pas toucher l'électricité, à mettre le scotch sur les boutons, à droite, des interrupteurs. Commence. Et laisse après. Et tu pries Hachem qui te fasse gagner. L'épreuve, c'est Hachem qui l'a fait gagner. C'est pas toi, tu n'as pas les forces pour tenir. Mais avance. Ne désespère pas. Et le mot Nes, en hébreu, ça veut dire un drapeau, un étendard. Ça veut dire que d'un seul coup, alors qu'on était tout petit, d'un seul coup, quand on a gagné son épreuve, on devient, aux yeux d'Hachem, un étendard. Ah, et voilà, mon fils, il a gagné. Ah, voilà, mon fils, il s'est levé, il a réussi. Hachem nous prend, nous embrasse. Je t'abarre chez Molad, tu as gagné. Voilà pourquoi Hachem, il vient, il nous met à chacun notre épreuve de notre vie. Nisayon. Qu'Hachem, il fasse qu'on réussisse notre épreuve de notre vie. Et la première épreuve, c'est commencer à étudier la Torah. Parce que comment tu veux savoir qu'est-ce qui est cachère et pas cachère si tu n'as pas étudié la Torah? D'accord? Je termine avec une petite histoire rigolote. J'ai une Marocaine qui marie son fils avec une femme d'Argentine, d'accord, qu'il a rencontrée en Israël. D'accord? C'est pas des religieux, mais c'est des Marocains. Grâce à Dieu. Et d'un seul coup, alors, les parents, c'est des juges. Les parents en Argentine, c'est un juge. Alors, il envoie une lettre à la belle-mère. Voilà, je suis heureux que ma fille va se marier avec votre fils. D'accord? On viendra pour le mariage, on s'occupera de tout. Dans ce jour de Kippour, d'accord? Je vous souhaite Mazal Tov. Elle dit, ouais, Kippour, il écrit Kippour, il écrit Kippour. Il ne savait pas que c'était interdit d'écrire Kippour. Il ne savait pas. Comprenez? Donc, il y a des gens comme ça, ils arrivent, ils te mettent les tefillin Shabbat. Mais on ne met pas les tefillin Shabbat. Mais comment tu veux savoir si tu ne lis pas la Torah? Donc, la meilleure façon pour réussir, c'est en étudiant la Torah. Bracha va servir à ce que moi aussi, que nous tous, on réussisse notre examen de la vie.